France Inter.
Merci et le prochain flash, ce sera dans une heure à 15h sur France Inter.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Racine carrée de 4.
C'est désagréable, hein ? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des qu'à faire.
Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie.
Et si nous pouvions découvrir de nouveaux médicaments en nous inspirant des connaissances de certains animaux? Quand on se penche sur le sujet, on découvre que la faune regorge de médecins et que les animaux se servent dans la nature comme dans une armoire à pharmacie. Les grands singes nous apprennent beaucoup, nous dira la primatologue Sabrina Krief. Elle observe les chimpanzés depuis plus de 20 ans en Ouganda. Les grands singes trouvent les plantes qui leur feront du bien, mais il n'y a pas que. Les mésanges désinfectent leur nid, les papillons monarques ne pondent pas n'importe où en cas de menace pathogène et les moutons savent soulager leurs problèmes de digestion. La zoopharmacognosie est la pratique par laquelle les animaux s'automédiquent et cette discipline est étudiée depuis peu par les chercheurs. C'est ce que va nous expliquer Benoît Grison. Il est biologiste et sociologue des sciences, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Benoît Grison.
Bonjour Fabienne.
Que sait-on de l'automédication chez les animaux ? On commence à découvrir le sujet.
Beaucoup et peu de choses à la fois. Ça fait une petite cinquantaine d'années que des chercheurs travaillent là-dessus. Le premier, c'est Richard Wrangham, qui en Tanzanie, puis en Ouganda, a réalisé qu'il fallait écouter les game rangers, hein, les gardiens de parcs naturels, qui lui disaient « les grands singes se soignent et les anciens chez nous s'inspirent de leurs recettes médicinales ». Richard Wrangham disait « c'est un peu n'importe quoi », jusqu'au jour où il s'est décidé à tester ça. Et il s'aperçut que c'est en grande partie vrai, que effectivement le comportement des chimpanzés inspire certains tradipraticiens de médecine traditionnelle, donc africaine.
Il n'y a pas que les grands singes, hein. Les non. Perroquets, les mésanges en Corse, les dauphins, les drosophiles, les papillons monarques oui. Pratiquent l'automédication.
L'ensemble du monde animal, même les langoustes, c'est dire.
Alors racontez-nous, que font les mésanges corses, par exemple ?
Alors, en fait, c'est un cas très intéressant et qui fait bien le lien entre les savoirs humains et les savoirs animaux. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. Le fait qu'un certain nombre de populations tirent leur inspiration des savoirs des animaux qui les entourent. En Corse, dans le parc naturel de Fango, il y a des petites mésanges, la mésange bleue qu'on connaît bien. Et depuis toujours, les ornithocorses et les autres savent que elles décorent, du moins en apparence, leur nid avec des plantes aromatiques.
De la lavande.
De la calaminte, voilà, pour l'essentiel. Sauf que, à un moment donné, deux chercheurs, Adèle Menra, qui ne travaille maintenant plus en France, mais qui travaille au CNRS, et Marcel Lambrecht, du CNRS Montpellier, se sont dit, mais est-ce une coïncidence le fait que ces plantes dites décoratives soient toutes des plantes aromatiques avec des composés qu'on utilise parfois en pharmacopée ? Et se sont aperçus en fait que ces plantes jouaient un rôle de désinfection pour les oisillons par rapport à un certain nombre de germes qui venaient sans cesse infecter les oisillons. Bon, ça a amené à quelque chose de fascinant de la part de ces deux collègues, la Marcel Lambrecht et Adèle Menra. Ils se sont aperçus que toutes ces plantes-là qu'utilisaient mes anges bleus, eh bien, les guérisseurs phytothérapeutes traditionnels corses aussi. Donc, ils se sont demandé s'ils n'avaient pas trouvé leur inspiration dans l'observation de la mésange bleue. Bon, et ça, c'est quelque chose de fascinant. Je rajoute que chaque mésange a ses préférences, c'est-à-dire que il y a plusieurs possibilités de choix de plantes aromatiques qui ont le même effet désinfectant, et chacune a des préférences qu'on peut qualifier de subjectives, d'individuelles, parce que c'est aussi ça la cognition animale, c'est-à-dire les processus mentaux animaux. Les animaux sont des individus avec des personnalités.
Et vous allez maintenant nous raconter les dauphins. Les dauphins aussi savent se soigner dans la nature.
Tout à fait. Alors, ça, c'est une connaissance plus récente concernant les dauphins. Dieu sait qu'on a beaucoup étudié leurs processus cognitifs, mentaux, leur vie sociale, si complexe. Mais on s'est aperçu qu'en fait, ils cherchaient activement pour soigner des problèmes de peau, des problèmes dermatologiques, des composés. Et ça, ils les trouvent dans des éponges, dans des coraux, sur lesquels ils se frottent pour réguler des dermatoses.
On a étudié les coraux, on a étudié les éponges et on a trouvé ce qu'il y avait dedans.
C'est ça. Et c'est des produits qui peuvent avoir, je dis bien qu'ils peuvent, parce qu'au recherche-développement, il faut du temps pour valider l'utilisation d'un produit en pharmacopée humaine, mais qui ont peut-être un potentiel en dermatologie humaine.
Des insectes aux éléphants, on observe le phénomène d'automédication. Il se manifeste aussi bien chez les animaux sauvages que domestiques. Les animaux soignent leurs blessures et prennent parfois soin de leurs congénères blessés. Les insectes sociaux protègent leurs colonies en y incorporant des résines ou des bactéries produisant des antibiotiques. Comment les animaux ont-ils découvert les vertus curatives des plantes, des minéraux et des invertébrés? Comment ce savoir est-il transmis? Quelles sont les preuves d'une automédication chez les animaux? Les humains proches de la nature ont largement profité et profitent encore de ce que les animaux ont appris en matière d'automédication.
Extrait de l'automédication chez les animaux dans la nature de Jean-Pierre Jost et c'est paru en 2015. Oui, comment ces animaux ont-ils ces connaissances, ont-ils ces savoirs?
Alors ça, c'est une question très complexe. Si on parle des abeilles et des fourmis, par exemple, les abeilles, pour beaucoup d'espèces, parce que vous savez, il n'y a pas que l'abeille domestique, hein, les abeilles, c'est un monde.
Il y a des milliers d'espèces d'abeilles.
Voilà. Il ne faut pas non plus se focaliser que sur l'abeille domestique, il faut penser à la préservation des abeilles sauvages. Disons que beaucoup d'espèces d'abeilles mettent de la propolis à l'entrée de la ruche, parce que c'est désinfectant, et que le problème des germes, vu surtout, si vous voulez, la cohabitation très dense démographiquement des abeilles dans la ruche, le problème des germes est important. Mais les fourmis, leurs cousines, qui ont encore beaucoup plus de problèmes bactériologiques parce qu'elles vivent dans le sol, où il y a énormément de germes dangereux pour elles, eh bien, elles ne font pas que désinfecter avec certains mécanismes physiologiques, notamment une certaine glande, le sol qui les entoure. Ce qu'elles font, c'est qu'elles ont l'objectif de maintenir leur culture de champignons quand ces animaux, les fourmis, cultivent des champignons, en favorisant le développement de bonnes bactéries qui produisent des antibiotiques et qui protègent leurs champignons de culture, si je puis dire. Et puis surtout, il y a un truc extraordinaire chez la fourmi noire qui a été étudiée, c'est la prophylaxie, c'est-à-dire ce qu'on appelle en médecine prévoir les infections, c'est-à-dire que des individus fourrageurs, c'est ce qu'on appelle les fourrageuses, c'est-à-dire des petites fourmis noires qui vont aller chercher la nourriture à l'extérieur du nid, à l'extérieur de la fourminière. Eh bien, si ces fourrageuses réalisent qu'elles sont infectées, elles s'auto-excluent si elles ont un champignon, des spores de champignons microscopiques dangereux ou une bactérie dangereuse sur le corps, elles s'auto-excluent, elles s'auto-éjectent du nid. Parce qu'il s'agit de protéger, en fait, le centre du nid, il s'agit de protéger les fourmis en développement, la reine, bien. Le problème est de savoir comment toutes ces fourmis savent qu'elles sont infectées.
Mais oui, vous, le spécialiste de la cognition animale, quelle est votre réponse?
Eh bien, on n'a pas de réponse actuellement, et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, parce que, de fait, elles ont cette connaissance, et ça leur permet de sauvegarder d'infections majeures, grâce à cette distanciation et cette auto-exclusion, les nids, les fourminières.
Comment les mésanges, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, savent qu'il faut mettre de la lavande dans le nid?
Là, on a des éléments de réponse, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que les oiseaux ont des capacités cognitives et un cerveau qui est extrêmement performant, ce qu'on ne savait pas avant. On pensait qu'ils n'avaient pas d'équivalent de cortex, on sait que c'est une erreur neurobiologique. Ils ont évolué différemment, hein, parce que c'est des descendants des dinosaures, c'est même au sens strict des dinosaures à plumes, mais ils ont l'équivalent d'un cortex. Et ils sont capables d'apprentissage très très fin, très important, et surtout d'apprentissage culturel. Ce qui veut dire que vraisemblablement, des mésanges dans certains groupes ont trouvé l'utilité qu'avaient ces plantes aromatiques et ont été imitées par leurs congénères. Parce que de toute façon, selon les groupes de mésanges, on n'utilise pas les mêmes plantes de protection. Il y a donc des cultures animales chez les oiseaux qui ne se traduisent pas que par les variations de chant, tout comme il y a des cultures animales chez les chimpanzés, étudiées par exemple par Sabrina Krief.
Ah, le monde merveilleux de la nature auquel s'intéressait déjà Plutarque. Voici un extrait de ses œuvres morales.
Les Égyptiens ont appris, dit-on, l'usage des lavements en voyant l'ibis s'en donner avec de l'eau de mer. Les éléphants pratiquent aussi la chirurgie. Ils arrachent du corps des blessés les flèches, les tronçons de lance, et cela sans agrandir leurs plaies et sans les faire souffrir. Les chèvres de Crète, lorsqu'elles ont été percées d'une flèche, mange du dictame qui fait sortir facilement la pointe de flèche et leur exemple a appris aux femmes enceintes à faire usage de cette plante pour se procurer un enfantement plus facile. Dès que ces animaux ont reçu quelques blessures, ils ne cherchent plus d'autre remède que le dictame. Voilà sans doute des connaissances merveilleuses.
Plutarque était un fin observateur, alors les chèvres et le dictame, c'est connu.
Alors, c'est pas vraiment prouvé. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans le texte de Plutarque, c'est que avec les Grecs anciens, on est dans une culture qui est très, très à l'écoute de la nature encore. Et donc, à cette époque-là, comme dans les cultures traditionnelles actuelles, du moins ce qu'il en reste, parce que hélas, il n'y en a plus beaucoup qui sont préservés, on était toujours prêt à apprendre des animaux, bien entendu tirer des vertus des plantes. Mais il n'y a pas l'évaluation scientifique, c'est-à-dire qu'on était un petit peu dans des sociétés qui avait un biais symétrique et inverse des notes. Les notes, pendant longtemps, on a été anthropocentriques. Il n'y avait pas d'intelligence animale, il n'y avait rien à apprendre des animaux. Ces sociétés étaient fascinées par les animaux, mais il leur manquait souvent la rigueur de l'évaluation scientifique. Donc, quand on voit un texte ancien comme celui de Plutarque, pour évaluer les recettes médicinales qui auraient été tirées du comportement animal, il faut faire la même démarche qu'aujourd'hui le spécialiste de zoopharmacognosie, qui entend une information de la part d'un peuple autochtone et qui va vérifier si vraiment il y a une efficacité de tels remèdes qui auraient été observés chez l'animal et si ce comportement animal n'est pas exagéré par les on-dits ou pour la tradition populaire.
Voilà. Donc il faut juste étudier le dictame maintenant.
C'est ça.
Qui est très vendu en Crète, en clair, et qui a beaucoup de vertus voilà, pour les humains.
L'idée c'est ça, c'est de passer d'un scepticisme buté à pourquoi pas évaluons. Voilà.
Et dans un instant, Benoît Grison, on retrouvera Sabrina Akriev qui nous parlera des chimpanzés. Moon, c'était Yaya Bey.
Les aventuriers sur France Inter.
Benoît Grison, les grands singes possèdent une armoire à pharmacie qui est très très fournie.
Tout à fait. Or, ça va très loin. Sabrina Krief et avant elle Michael Huffman et Richard Wrangham fondateurs de la zoopharmacognosie, ont étudié ça. Alors, quelques exemples. Vous avez, en Tanzanie, en Ouganda, la plante Vernonia amygdalina, qui est un superbe vermifuge pour les chimpanzés. Les chimpanzés utilisent aussi la plante velcro, comme on l'appelle, l'aspilia, qui avec ses crochets les débarrasse des vers. Et puis vous avez aussi Acanthus pour les problèmes dermatologiques de maman chimpanzé et ses petits. Et vous avez même l'albizia. Alors, c'est une plante qu'on connaît bien parce que c'est ce qu'on appelle l'arbre à soie et les pépiniéristes et les paysagistes la connaissent dans nos pays. L'albizia, l'arbre à soie, serait aussi très très intéressant pour les problèmes digestifs des grands singes. Voilà, mais ça n'est qu'un début pour la recherche, puisque maintenant on s'intéresse à l'orang-outan. Lequel orang-outan est beaucoup, beaucoup plus difficile à observer, est un être solitaire, mais on sait quand même que maman orang-outan garde plusieurs années son rejeton, son unique rejeton, et lui apprend les différentes plantes toxiques, pas toxiques, plusieurs dizaines. Donc, la pharmacopée de l'orang-outan commence à être activement étudiée par un certain nombre de collègues.
Et comment travaillent les primatologues? Je vous propose maintenant d'écouter Sabrina Krief. C'est une spécialiste d'écologie comportementale et de zoopharmacognosie chez les chimpanzés. Sabrina Krief est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Donc, je travaille sur des chimpanzés sauvages en Ouganda, dans la forêt tropicale. Et faire un diagnostic d'état de santé, c'est pas si évident, parce qu'il y a d'abord un temps pour pouvoir les approcher, pour pouvoir les reconnaître. Donc, ça a été d'abord un long travail pour m'imprégner de cette vie sociale, de cette communauté, de les comprendre. Puis ensuite, d'essayer de savoir ce qui différenciait ce qu'un chimpanzé en bonne santé consommait de ce qu'un chimpanzé malade choisissait dans cette grande forêt.
Un long travail d'approche. Et puis, vous avez commencé à récolter ce qu'on appelle les fesses. Et c'est là qu'on voit si les animaux sont malades ou pas.
Voilà, donc pour en fait faire avoir une idée de l'état de santé de l'animal, j'ai des indices qui peuvent être observés par quasiment tout le monde, la toux, la diarrhée, etc. Et puis, ensuite, des prélèvements de ce que les chimpanzés veulent bien me donner, donc les crottes et les urines. Donc, dans les crottes, on peut trouver des parasites, évidemment, on peut voir s'ils ont de la diarrhée, de la constipation, on peut aussi voir des restes alimentaires. Et donc ça fait partie des choses qu'on peut suivre sur le long terme. Et de cette façon, par exemple, je suivais une jeune femelle qui s'appelle Kilimi, et elle avait depuis plusieurs jours une alternance de sel diarrhéique, un peu de constipation, puis il y avait des vers dans ses selles que je voyais au microscope. Et à un moment donné, elle s'est séparée de sa mère et de ses frères et sœurs pour aller manger des écorces d'un gros arbre. Avec beaucoup, beaucoup d'efforts, elle a enlevé ses écorces, elle les a mastiquées, alors que les autres étaient autour et que personne ne consommait ça. Donc ça m'a vraiment intriguée. J'ai discuté avec les assistants de recherche ougandais qui travaillent avec moi. Mmh. Eux m'ont dit, nous, cette plante-là, on la connaît parce qu'au village, on la mastique aussi. Et vraiment, ça, quand on a des ballonnements ou des problèmes digestifs, ça améliore vraiment le transit. Donc évidemment, là je me suis dit c'est intéressant de mieux connaître cette plante. Donc à ce moment-là, c'est un travail de chimie qui se met en place une fois que la plante a été identifiée, une fois que la botanique a été faite, pour extraire les molécules et essayer de savoir quelle partie de la molécule par exemple est active pour après pouvoir la resynthétiser.
Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette écorce ?
Alors dans cette écorce, d'abord on fait donc les tests d'activité sur l'écorce entière. On a vu qu'il y avait des propriétés vermifuges et on a vu aussi qu'il y avait des propriétés sur les cellules tumorales du poumon. Et donc à partir de là, on fait un travail de chimie qui consiste à fractionner pour aller jusqu'à la molécule. Et on a trouvé trois molécules, trois saponosides qui étaient inconnus jusqu'à présent et qui avaient à la fois des propriétés contre les parasites digestifs, mais aussi qui étaient actifs contre les cellules tumorales.
Les chimpanzés connaissent donc ces propriétés vermifuges et peut-être les propriétés antitumorales, mais vous avez remarqué d'autres comportements?
Oui, alors, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'ils connaissent les propriétés. Non. En tout cas, ils connaissent l'effet, le soulagement que ça peut avoir, par exemple, justement, sur le transit digestif. Après, savoir s'ils savent exactement quelle plante a quel effet, ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de comprendre, savoir comment ça se transmet, etc. On a trouvé par exemple des activités sur l'agent du paludisme. Donc les chimpanzés mangent des feuilles très très amères, et là encore, c'est vraiment le comportement d'un chimpanzé que je suivais qui m'a mis en alerte, parce qu'il boitait, qu'il a mangé cette plante, et il a mangé ça exclusivement. Alors que les autres mangeaient des figues, etc. Lui, toute sa journée a consisté à mastiquer des feuilles très très amères. Et dans ces plantes, on a trouvé des activités donc, contre l'agent du paludisme. Donc là, on peut se dire, bah, c'est un peu loin. Un chimpanzé qui boite, qui mange des feuilles amères, et puis finalement, on trouve des activités anti-palu. Mais en fait, cette plante, elle est aussi connue localement pour être un antidouleur. Donc, savoir si le chimpanzé mange cette plante-là quand il a mal à la tête parce qu'il a le palu ou quand il a mal à la cheville parce qu'il s'est fait une entorse, c'est aussi assez compliqué. Mais probablement que cette activité antidouleur, c'est vraiment ce que le chimpanzé recherchait.
Est-ce que chez les chimpanzés, ces connaissances, ou est-ce qu'on peut parler de connaissances d'ailleurs, se transmettent de génération en génération, ou bien est-ce que c'est l'instinct ?
Alors ça, c'est vraiment ce qui est passionnant dans ce travail, et c'est un travail évidemment de long terme. Donc aujourd'hui, on a pu voir qu'il y avait probablement un savoir individuel. Donc le chimpanzé teste, notamment avec ce goût très fort qui caractérise en général les plantes médicaments, qui sont un signal d'alarme pour pas qu'on en consomme trop, et ce qui fait vraiment la différence entre aliments et médicaments. Et puis, probablement, quand l'effet bénéfique est ressenti, la fois d'après, il pourra recommencer à goûter cette plante-là sans en dépasser une posologie trop importante, mais à bénéficier à nouveau de ses propriétés. Ce qu'on a par contre très bien vu aussi, c'est que quand un chimpanzé mange quelque chose d'inhabituel, tous les autres autour sont très intéressés. Et donc ça, on a fait une étude vraiment fine et scientifique pour regarder qui observait qui dans quel contexte. Et on a vu qu'il y avait des individus entre 25 et 35 ans qui étaient plus observés que les autres. Donc c'est la force de l'âge chez le chimpanzé. Ça pouvait être des mâles ou des femelles, et ils étaient observés aussi bien par des jeunes que par des adultes. Donc il y a une sorte de référent qui, quand il consomme quelque chose de particulier, attire l'attention du reste du groupe. Et donc ça nous met vraiment en évidence le fait qu'il y a une transmission de ces pratiques qu'on peut associer à des savoirs, puisque c'est des pratiques qui sont récurrentes, qui se transmettent a priori entre générations et qui sont partagées par les membres d'un groupe. Et c'est là aussi où c'est passionnant, c'est que c'est partagé par les membres d'un groupe, mais le groupe voisin n'a pas les mêmes connaissances. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on parle d'un savoir et de culture, parce que chaque groupe maintient en fait ses connaissances au sein de ses individus.
Benoît Grison, Sabrina Krief travaille avec les chimpanzés en Ouganda depuis plus de 20 ans. Et le travail qu'elle fait va peut-être aider les laboratoires pharmaceutiques destinés aux humains.
Sûrement. En fait, c'est un long processus. Par exemple, Vernonia amygdalina, on sait très bien depuis longtemps que les chimpanzés s'en servent comme médicament, y compris pour des troubles digestifs. Mais maintenant, on a trouvé des propriétés anticancéreuses et antipaludéennes à cette molécule.
C'est ce que racontait Sabrina Krief.
Oui, mais c'est pas parce qu'il y a ces propriétés-là que ça sera forcément très adapté à la thérapeutique humaine. Et puis, on peut trouver des molécules qui sont également en développement, découvertes par des botanistes, qui seront plus efficaces. Donc, on n'est pas toujours sûr de la valeur ajoutée de ces découvertes en zoopharmacognosie. Ce dont on est sûr, c'est qu'elles illustrent parfaitement à la fois l'intelligence extraordinaire de beaucoup d'animaux et l'existence de cultures animales très complexes. Parce que, comme l'a dit Sabrina, il n'y a pas une culture chimpanzé qui est la même. Et c'est vrai aussi pour les thérapeutiques végétales qu'utilisent les chimpanzés. C'est pas parce que deux groupes de chimpanzés vivent dans la même région et disposent des mêmes ressources phytothérapeutiques qu'ils les mettront à profit à égalité. Ça laisse supposer, même si c'est très difficile d'être là au moment où ça commence, qu'il y a des individus qui non seulement ont une forte influence dans le groupe, donc d'un certain âge, et qui ont un statut social valorisé et qui sont suivis, et qui sont innovateurs, qui à un moment trouvent des choses, sont suivis à cause de leur statut et de leur influence sociale par les autres et propagent ça dans le groupe. Et puis, vous avez des groupes qui sont à 30, 50 kilomètres, qui ont les mêmes plantes, et il se passe rien, ils ne les exploitent pas, parce qu'ils n'ont sans doute pas eu l'individu innovateur qui a eu le déclic. Puis après, c'est un apprentissage social, c'est-à-dire que Sabrina parlait de l'amertume de ces plantes-là, qui sont des plantes médicinales, effectivement. Eh bien, les mères font très attention, les mères chimpanzés, à la façon dont leur petit, qui est affecté par une maladie quelconque, elles essaient activement de soigner, parce qu'on peut le dire sans anthropomorphisme, elles font très attention à ce que, primo, elles mangent cette plante amère qui les dégoûte, donc elle les force plus ou moins. Secondo, qu'elle n'en mange pas trop. Donc vous voyez, c'est certes une source d'inspiration possible pour la pharmacopée humaine, cette zoopharmacognosie, mais c'est surtout une belle illustration de la complexité de la cognition individuelle, l'intelligence individuelle et de la cognition sociale, culturelle de beaucoup d'animaux.
Alors, j'adore vous écouter parler des animaux comme vous en parlez. Benoît Grison, on vous retrouve dans un instant et on retrouvera aussi la primatologue Sabrina Krief.
Donc là, Albert, c'est celui qui a le bras accroché à la branche, le bras en l'air. Donc quand un chimpanzé lève le bras comme ça, en se grattant, c'est en quelque sorte une demande d'épouillage.
La vie aurait le goût de l'eau, d'une question jamais posée, la fadeur ancrée. Sous la peau, on éviterait l'intensité. Nous en sommes arrivés au point où peu de choses nous importent. Un ciel, un baiser, un refrain, qu'on ne fasse pas claquer la porte. On sent pourtant encore la peur qui se colle à nous-mêmes l'été. Condamné à l'intensité, à ce que saturent les couleurs. Il n'y aurait plus de douleur, ni de joie pour nous soulever. Les colères seraient dépassées. Rien qui n'éprouve plus le cœur. Nous en sommes arrivés au point où peu de choses nous importent. Un ciel, un baiser, un refrain, qu'on ne fasse pas claquer la porte. On sent pourtant encore la peur qui se colle à nous-mêmes l'été. Condamné à l'intensité, à ce que saturent les couleurs.
Et l'intensité, c'était Dominique A.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Quand on constate, Benoît Grison, que les animaux sont capables de trouver dans la nature des plantes qui les soignent, est-ce qu'on peut parler de médecine animale ?
Oui et non. C'est-à-dire que quand il s'agit d'animaux dont on sait qu'ils ont des capacités d'apprentissage, de mémoire à long terme, notamment des événements d'intelligence sociale développée, c'est le cas de beaucoup de mammifères, d'oiseaux et même de certains reptiles, contrairement à ce qu'on pense, à ce moment-là, on sait que ces stratégies sont en grande partie conscientes. Comme le sont par définition, heureusement pour nous, les stratégies de la médecine humaine. Mmh. Dans d'autres cas, ce qu'on appelle les invertébrés, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, c'est plusieurs dizaines de lignées évolutives et il n'y a pas grand point commun entre un ver de terre et une araignée. Eh bien, dans d'autres cas, dans le cas des invertébrés entre guillemets, il n'y a pas toujours un apprentissage qui est la base de cette stratégie apparemment médicinale et dans ce cas-là, c'est un comportement inné.
On reparlera des invertébrés bien dans sûr. Un instant, mais j'aimerais que vous me racontiez ce que font les singes.
Alors, c'est les colobes de Zanzibar qui ont été très bien étudiés par un certain nombre de collègues. Et ils cherchent activement du charbon de bois après qu'ils se sont gavés de baies en abondance. Ils se sont goinfrés de baies à la belle saison.
Et ils ont mal au ventre.
Et à ce moment-là, ils cherchent les zones à charbon de bois. Et ils font exactement comme le faisaient nos arrière-grands-parents. Il y a une époque où la pharmacie ne proposait pas, hein, la pharmacopée, tout ce qu'elle propose de nos jours, fin du 19e siècle, même jusque dans les années 1940 du siècle dernier. Et à l'époque, le charbon de bois pour nos arrière-grands-parents, qu'on vendait en pharmacie, c'était le remède souverain contre un certain nombre d'indigestions, parfois après des agapes un peu trop abondantes. Eh bien, il y a un certain nombre d'animaux, notamment les colobes, hein, ces singes apparentés aux cercopithèques en Afrique, qui font la même chose quand ils ont des gros problèmes digestifs. Et c'est bien sûr un comportement conscient, c'est un comportement culturel qui s'est propagé dans le groupe. On parle des colobes de Zanzibar parce que tous les colobes n'ont pas cette parade en cas d'indigestion. Bon. Et c'est extrêmement intéressant. Vous retrouvez ça aussi, alors là, dans un tout autre endroit du monde, avec les perroquets en Amazonie, en Amérique centrale. Alors différents perroquets, que ce soit l'Amazone, ce superbe perroquet vert, qui a d'ailleurs une cognition très développée, que ce soit l'ara, que tout le monde connaît, même s'il y a plusieurs espèces d'ara.
Très coloré.
Voilà. C'est la même chose. Quand ils se sont abondamment goinfrés de fruits et surtout de baies. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors cette fois-ci, ce n'est pas du charbon de bois. Ils recherchent en fait des argiles. Or, c'est exactement ce que nous utilisons aussi dans notre médecine humaine.
Donc ils se font
le
des cataplasmes.
Smecta, hein, bon, on ne fait pas de publicité, de toute façon c'est dérivé du nom de cette argile, la smectite. Et ils se soignent comme ça, ils se font un pansement gastrique et puis ça leur permet d'absorber un certain nombre de métabolites secondaires qui leur créent des problèmes digestifs. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a réellement pour partie une médecine animale sans anthropomorphisme.
C'est assez incroyable, la nature est une pharmacie à ciel ouvert. Je vous propose de retrouver Sabrina Krief, primatologue, donc qui se rend plusieurs fois par an dans une forêt en Ouganda.
On le sait aujourd'hui, est l'endroit au monde où on trouve la plus grande diversité végétale et c'est une sorte d'immense pharmacie à ciel ouvert que nous-mêmes humains connaissons encore très partiellement parce que on n'a pas du tout exploré toutes les propriétés biologiques et chimiques des plantes. Et les chimpanzés, en fait, par exemple, quand on regarde les plantes qu'ils consomment rarement, on a pu voir que il y avait 20 espèces différentes qui ont des propriétés antipalus et qu'ils vont donc consommer pas de façon régulière mais de façon sporadique avec des fréquences et des doses variables, ce qui peut a priori éviter une sorte de résistance que nous on n'a pas su éviter en prenant toujours les mêmes molécules. Donc cette connaissance fine de leur environnement pour les humains c'est vraiment a priori une source d'inspiration tant pour les populations locales que pour éventuellement les chimistes.
Avant de nous raconter quelles implications il peut y avoir chez les humains, j'aimerais que vous nous emmeniez en Ouganda sur la piste des chimpanzés. Vous les fréquentez depuis plus de 20 ans. Vous y passez énormément de temps.
Alors, on part vers 4h30, 5h du matin, après un rapide petit déjeuner, avec une lampe frontale, pour aller retrouver les chimpanzés qui ont construit leur nid la veille. Donc, chaque chimpanzé adulte construit un nid. Les mamans dorment
tous
avec...
Les jours.
Tous les jours, un nid différent. Les mamans dorment avec leur plus petit, qui n'est pas encore sevré. Et puis, quand on arrive, alors parfois après une demi-heure, mais parfois après une heure ou une heure et demie de marche, dans une forêt donc, qui est encore toute sombre... On attend leur réveil. Là, on peut récupérer les urines. Donc, en prenant un sac plastique qu'on met sur une branche qui fait une fourche, un peu comme un filet à papillons, on court sous le jet d'urine pour récupérer quelques gouttes d'urine et pour ensuite pouvoir faire des analyses d'urine notamment. Puis après, les chimpanzés descendent au sol, souvent pour se déplacer pendant quelques kilomètres pour arriver jusque à leur arbre de petit déjeuner. Et donc, on suit chacun de leurs mouvements. On essaye d'identifier les individus avec avec lesquels on est, parce que les chimpanzés ne vivent pas en groupe fixe, hein, ils ont des sous-groupes au sein de la communauté. Et on essaye de voir si certains sont malades, mieux comprendre leurs interactions sociales, voilà.
Donc, dans la forêt d'Ouganda, il y a énormément de ressources que les chimpanzés ont identifiées. Est-ce que l'industrie pharmaceutique des hommes s'intéresse à ce sujet ?
Alors là, par exemple, une des récentes études qu'on a faites a été associée avec un groupe de cosmétiques qui a financé une thèse. Et donc, mon étudiante a travaillé sur les nids des chimpanzés, justement, puisqu'on s'est rendu compte que parmi donc, toutes ces espèces végétales qui sont à disposition, les chimpanzés choisissent certaines espèces d'arbres pour faire leur nid. On s'est interrogé de savoir si c'était pour le confort mécanique, donc se faire un bon lit douillet, ou bien s'il pouvait y avoir aussi des propriétés répulsives pour les bestioles qui les embêtent, hein, les tiques, les moustiques, etc. Et donc, on a pu mettre en évidence qu'ils utilisent plus d'une cinquantaine de plantes, mais que seulement 3 espèces d'arbres représentent plus de 50% des nids qu'ils construisent. Donc, ça veut dire qu'ils vont vraiment sélectionner ces arbres. Et sur les 10 espèces les plus fréquentes, 7 d'entre elles ont des activités répulsives contre les moustiques, les anopheles, qui sont eux-mêmes vecteurs des fameux parasites du paludisme.
Et donc
on retrouve un peu cette thématique qui est un lien depuis le début de mes travaux, puisque je me suis bien sûr interrogée à savoir si les chimpanzés souffraient du paludisme, puisqu'ils consomment des plantes à activité antipalud. Et on a trouvé que les chimpanzés, effectivement, avaient dans leur sang des parasites de type Plasmodium.
Mais est-ce que certaines molécules intéressent l'industrie pharmaceutique ? Est-ce que on va voir bientôt des médicaments développés grâce aux chimpanzés ?
Alors là, c'était vraiment l'idée, c'était essayer de s'inspirer de cette composition aromatique, donc des huiles essentielles qu'on trouve dans ces fameux nids quand les chimpanzés se couchent dessus et donc permettent aux molécules volatiles de s'exprimer, pour essayer de voir si on peut reconstituer une sorte de spray qui serait inspiré de ces huiles essentielles. C'est un travail qui est en cours, qui semble porter ses fruits.
Mais Sabrina Krief, est-ce que vous êtes sur une autre piste avec les chimpanzés ?
Alors, il y a pas mal de choses qui m'intéressent tout particulièrement. Moi, j'aimerais beaucoup savoir si les chimpanzés prennent des substances soit qui les excitent, soit au contraire qui les apaisent. Donc, un peu tout ce qui est d'ordre psychotrope.
Oui. Est-ce que les chimpanzés se droguent ?
Voilà. Donc ça fait partie des questions qu'on essaye d'explorer. Et c'est vraiment intéressant parce que ça allie à la fois le comportement, donc par exemple le comportement des mâles quand il y a des conflits, des agressions, etc. Et puis les aspects de santé. À mon avis, il n'y a pas de raison que les humains aient réussi à trouver dans la forêt des psychotropes et que les animaux n'en fassent pas usage aussi. Donc ça fait partie des questions actuelles.
Benoît Grison, vite, un spray anti-moustique inspiré par les chimpanzés.
Ça, oui, ça serait intéressant. Mais vous savez, les oiseaux eux-mêmes sont souvent très très embêtés par des diptères, comme disent les zoologistes, mouches ou moustiques. Et en Amérique centrale, vous avez un superbe oiseau qui s'appelle l'Oropendola, le cacique de Montezuma. Et ce passereau, il a un problème avec ses oisillons. C'est-à-dire que souvent, au moment où les oisillons sont en train de se développer tranquillement dans le nid, il y a une mouche parasite qui vient pondre ses œufs dans le nid et les larves nuisent au développement de leur malheureux oisillon. Et à ce moment-là, l'Oropendola tolère la présence d'une guêpe qui est l'ennemi juré, si vous voulez, de cette mouche parasite et qui la mange. Par contre, dans les zones où la mouche n'infeste pas les nids, les caciques de Montezuma, ces oiseaux chassent les guêpes ou les avalent sans aucune pitié. Ce qui veut dire que c'est encore une stratégie consciente, une stratégie cognitive, tolérer l'ennemi habituel pour qu'il débarrasse d'un ennemi beaucoup plus gênant, à savoir une mouche qui risque de nuire ou de faire périr des oisillons.
Benoît Grison, je vous propose de terminer cette partie avec un extrait d'émission diffusée le 24 juillet 1986, « Comment les animaux se soignent par les plantes ?» et c'était Jean-Marie Pelt.
Alors, quand on observe les animaux de la nature, on apprend des choses tout à fait intéressantes et on voit comment ils se comportent. Alors, il y a beaucoup d'exemples qui sont tout à fait significatifs. En Australie, Les kangourous sont chez eux, n'est-ce pas? Et ils ne sont chez eux que là, il n'y en a pas ailleurs. Il existe deux plantes de la famille des légumineuses, qui est la famille du petit pois ou du haricot. Ça les rend tellement malades qu'ils en meurent, parce qu'il y a dans cette plante un poison, un acide qui est très toxique pour les animaux. Ils ne touchent jamais. Ils ne touchent jamais. Les kangourous ne touchent pas cette plante. Mais les moutons qu'on a importés en Australie il y a quoi, 200 ans 300 ans, pas plus, 200 ans. Alors eux mangent cette plante, ils s'empoisonnent et meurent. Parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps, ils n'ont pas encore eu le temps de savoir que c'est dangereux. Et par conséquent, alors, eh bien, ils s'empoisonnent bêtement.
Benoît Grison, une réaction?
Oui, alors c'est très intéressant ce que disait là Jean-Marie Pelt. C'est encore la question de l'apprentissage social. Parce que un agronome et spécialiste du comportement des ovins, Juan Villalba, lui a pu apprendre l'usage de plantes médicinales à des moutons sur des parcelles auxquelles il est confronté pendant des années. Donc l'apprentissage social, c'est capital chez beaucoup d'organismes, oiseaux, reptiles, mammifères, dans le domaine de la thérapeutique qui est déployée par les animaux. Bon, et puis les humains apprennent sans cesse de ces animaux. Hein. Moi, je pense une découverte récente d'un des pères fondateurs de la zoopharmacognosie, Mike Huffman, en Tanzanie, dans le parc de Mahale. Il connaît un tradipraticien qui a introduit récemment une nouvelle plante, une légumineuse, comme antidiarrhéique. Et en fait, le tradipraticien lui a expliqué qu'il avait observé le comportement du porc épic à crête. Et le porc épic à crête, c'est le plus grand des porcs épics, et très impressionnant, qui, quand il a des diarrhées parfois sanglantes, se nourrit de cette légumineuse qu'il néglige complètement en temps ordinaire. Et il dit donc, je l'ai testé sur moi-même, à petite dose, pour mettre personne en danger. Ensuite, je l'ai fait partager à d'autres tradipraticiens, et nous l'avons introduite, cette nouvelle plante, dans le corpus de notre médecine traditionnelle. Donc, une médecine traditionnelle, c'est aussi évolutif, et ça passe aussi par l'observation avérée de comportements animaux thérapeutiques.
Et on en reparlera dans un instant. Vous nous direz aussi ce qui vous fascine chez certains invertébrés.
Thank you.
écoutait The Cure, The Love Cats.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Benoît Grison, quand on parle d'automédication chez les animaux, il y a quelque chose qui vous fascine chez les invertébrés.
Ce qui m'intéresse beaucoup dans les cas d'automédication chez les invertébrés, c'est que on ne sait pas, dans certains cas, si c'est quelque chose d'appris ou si c'est quelque chose d'inné. L'exemple le plus frappant, c'est les mouches drosophiles. C'est des cobayes de laboratoire classiques.
Oui, c'est la
cobayes
petite mouche.
Gentils, c'est la oui. petite mouche qui a permis de développer la génétique, hein, l'étude de la transmission des gènes. Eh bien, la mouche drosophile peut se débarrasser de certains parasites avec l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire quelque chose de très très simple. Il y a des guêpes parasitoïdes qui vont pondre leurs œufs dans la progéniture de la drosophile. Là encore, mise en danger de la perpétuation de l'espèce. Si vous présentez en labo à la drosophile un bac où elle aura sa nourriture, mais sa nourriture est baigne dans une solution alcoolique, et vous lui présentez à cette même drosophile un bac où il y a la nourriture sans solution alcoolique. Ensuite, vous la confrontez à des guêpes parasitoïdes. Eh bien, la drosophile choisira toujours de s'installer dans le bac qui est plein d'alcool et qui comporte aussi la nourriture parce que ça tue les guêpes parasitoïdes. Maintenant, si vous introduisez une guêpe cousine de la guêpe parasitoïde qui a une apparence très très proche, qui est difficilement distinguable de la parasitoïde.
Donc ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est ça?
Ça se voit pas. Vous introduisez le cousin de la guêpe parasitoïde dans l'expérience de laboratoire, eh bien, vous avez votre drosophile qui cesse de fréquenter le bac plein d'alcool. Visiblement, il y a un arbitrage, sans doute de type cognitif, qui fait qu'elle n'a plus besoin d'utiliser ce remède contre une guêpe qui n'est pas dangereuse. De plus, l'alcool est quand même relativement dangereux pour ses œufs. Donc, ça pose des questions qui sont fabuleuses, qui sont celles des apprentissages des insectes. Le fait que, maintenant, on considère qu'un certain nombre d'insectes ont une cognition. C'est le cas des abeilles, qui arrivent même à compter des quantités, certes, limitées. C'est le cas des frelons, des guêpes, et aussi en grande partie de la drosophile.
Et c'est le cas d'animaux beaucoup plus gros, comme les ours. Je vous propose un extrait de L'animal médecin, écrit par Yolaine Delabigne et paru en février 2023.
Dans diverses cultures amérindiennes et de nombreux peuples sibériens, c'est un fait acquis, l'ours est l'inventeur de la médecine. Il a offert aux hommes les moyens de se soigner. C'est en l'observant que les chamans ont acquis leur savoir. L'exemple de la plante nommée Osha, ou racine d'ours, est très significatif. Chez les Amérindiens des montagnes rocheuses, c'est en voyant l'ours gratter le sol à la recherche de cette racine que les hommes ont appris à la consommer et en ont découvert les usages. Les bienfaits de cette plante sont nombreux. Elle stimule la respiration, le système immunitaire et soulage des maux d'estomac. Son analyse chimique montre un taux important de butylidénéphtalide, efficace contre l'angine, l'hypertension, avec un effet antispasmodique, vasodilatateur et antioxydant.
Benoît Grison, les Indiens Navajo savent depuis longtemps que l'ours utilise des plantes pour se
Absolument.
Soigner.
Et là, c'est un texte de Rémi Marion dans cet ouvrage collectif coordonné par Yolaine Delabigne, auquel j'ai contribué aussi. Et ce qu'explique Rémi, en fait, c'est que les Navajo non seulement avaient raison quand ils disaient que la plante Lugisticum, cette fameuse plante de l'ours, avait des propriétés pharmacologiques, mais elles sont extrêmement nombreuses. Et jusque dans les années 1920, les ethnologues, qui sont pourtant par métier ouverts à la culture de l'autre, quand les Navajo leur disaient « Lugisticum, c'est une plante qui a une grande efficacité médicinale, notamment pour les indigestions, mais pas que, et nous l'avons apprise de notre père l'ours », ils disaient « Bon, c'est juste du symbolisme ». De la mythologie, on respecte ça, mais ça n'a aucune valeur empirique. Et en réalité, toutes les attributions thérapeutiques que faisaient les Navajo à la plante de l'ours existent bien, ont été validées en laboratoire. Et ça renvoie aussi au comportement autothérapeutique très complexe de l'ours, qui est de toute façon un animal d'une intelligence exceptionnelle.
On parle depuis le début de cette émission de zoopharmacognosie, mais c'est une discipline très récente. Pourquoi ?
Bah parce que en fait, il fallait dépasser, j'y faisais allusion à l'instant, nos préjugés ethnocentriques, comme disent nos collègues anthropologues. C'est-à-dire, c'est cette pensée que la culture occidentale savait tout et surtout que les autres cultures traditionnelles ne savaient rien. Parce que admettre, en fait, que des animaux se soignent et qu'ils aient pu inspirer un certain nombre de peuples traditionnels, ben, il fallait pour ça dépasser deux biais. Déjà, le biais donc ethnocentrique qui faisait qu'on considérait les cultures traditionnelles comme moins avancées que la culture occidentale, et d'autre part, le biais anthropocentrique, le fait de considérer que les animaux n'avaient pas d'intelligence, étaient des êtres d'instinct, comme on disait autrefois. Ça faisait beaucoup. Et peu à peu, on a réévalué l'intelligence exceptionnelle et la cognition très sophistiquée de beaucoup d'organismes. On a réévalué la richesse des ethnosavoirs des cultures humaines autres que celles du monde occidental. Et ça a abouti à la zoopharmacognosie, mais seulement à partir de la fin des années 1970.
Donc c'est vraiment très très récent.
C'est très récent. Avec des chercheurs comme Wrangham, Mike Huffman et quelques autres.
Est-ce qu'il y a déjà eu des médicaments qui ont été développés à la suite d'observations ?
Alors, il y en a qui sont surtout en développement actuellement. Parce que, vous savez, 50 ans, c'est quasiment rien dans ce domaine-là. Et puis, une fois de plus, c'est pas parce qu'on prouve la propriété de tel principe actif, de telle substance active dans telle plante qui est consommée par un animal, qu'elle sera forcément plus intéressante que d'autres substances actives qu'on trouve, notamment dans le domaine de la biodiversité marine, qui est un grand pourvoyeur aussi de molécules, oui. Parce que les organismes marins, les invertébrés marins, ont beaucoup de substances de défense qui sont intéressantes, par exemple en cancérologie, en pharmacologie. Donc, il va falloir du temps pour que ça soit une inspiration réelle de notre pharmacopée. Et puis, il n'y a pas énormément de chercheurs qui s'intéressent à la zoopharmacognosie. Donc, c'est une nouvelle frontière.
Allez, un dernier exemple, les serpents.
Quand les serpents se battent entre eux, quand un serpent est mordu, il cherche une plante qui est le Securidaca. Eh bien, les chasseurs des savanes utilisent cette même plante contre les piqûres des mêmes serpents. Et on a pu démontrer les effets de cette plante sur la piqûre des najats quand on la prend préventivement. Donc, ceci est vérifié, que la science a effectivement vérifié où ça colle.
Comment les animaux se soignent par les plantes ? Cette émission a été diffusée sur France Inter le 24 juillet 1986. On peut insister sur le savoir des sociétés traditionnelles et leur sens de l'observation.
Absolument. Et aussi le savoir de certains animaux. Pas tous, puisque parfois ces stratégies sont simplement innées et retenues par la sélection naturelle. Et puisqu'il était question de reptiles, voilà une nouvelle frontière au cœur de cette grande nouvelle frontière qu'est la zoopharmacognosie, parce que jusqu'à récemment, les reptiles ont sous-estimé leur cognition.
Oui.
Et on s'aperçoit que les crocodiles sont extrêmement sophistiqués cognitivement. On soupçonne aussi que c'est le cas de certains serpents. Il y a des études actuellement sur l'utilisation par des lézards dans la région indomalaise de plantes médicinales. Donc, c'est ça qui est fascinant, en fait, dans ces histoires d'autothérapeutique animalière, c'est que ça nous fait sans cesse réévaluer à la hausse la complexité du comportement des animaux, et ça nous fait aussi réévaluer à la hausse des organismes qui étaient négligés, qui étaient considérés comme traditionnellement moins intelligents, entre guillemets.
Et ça nous fait réfléchir sur notre propre sort à nous, les êtres humains.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Benoît Grison.
Je vous en prie.
Merci à Benoît Grison, auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux animaux. Et voici ses conseils de lecture.
Outre le livre de Sabrina Krief sur son expérience de terrain en Ouganda, il y a le collectif qui est paru début 2023 et qui est coordonné par Yolaine Delabigne aux éditions Alizio.
Et ça s'appelle L'animal médecin.
Absolument.
Marilène Patoumatis est la conseillère scientifique des Saventuriers. Cette émission est réalisée par Jérôme Boulet, attaché de production Caroline Prota. La programmation musicale est signée Djoubaka. La semaine prochaine, un sujet assez polémique, puisqu'il sera question de la chasse. On vous racontera entre autres comment chasser Louis XIII. Je vous rappelle que tous les épisodes de cette série sont déjà disponibles en podcast sur l'appli Radio France.